France Culture. Grande voix du XXe siècle, Fernand Braudel, par Alban Penaranda.
Dans l'histoire de l'histoire, il y a un avant et un après Fernand Braudel. Cette nuit sera une modeste manière de rappeler comment, à partir de lui, ce qu'il appelait l'art fragile d'écrire l'histoire, connut un nouvel âge. Comment, en héritier des fondateurs de l'École des Annales, Marc Bloch et Lucien Febvre, il bouleversa la recherche historique. En 1979, dans une tribune publiée dans Le Monde, Georges Duby, de 17 ans son cadet, résumait ainsi l'influence du pape de l'École historique française sur les jeunes générations de l'après-guerre. Parmi les historiens de ma génération, il en est peu, je crois, qui ne lui doivent quelque chose d'essentiel. Il en est beaucoup, j'en suis sûre, qui lui doivent à peu près tout. Ce qu'ont dû à Fernand Braudel les historiens de la génération de Duby et ceux des générations suivantes, nous l'entendrons par de multiples voix au cours de cette nuit, en écho à celle de l'auteur de « La Méditerranée et le monde méditerranéen » à l'époque de Philippe II, que l'on écoutera à différents moments de son parcours, développer l'idée qu'il se faisait de son métier d'historien. D'ailleurs, avant d'avancer dans cette nuit Braudel, écoutons-le sur la chaîne nationale en 1955, dessiner à grands traits et en une poignée de minutes le devenir qu'il souhaitait alors pour sa discipline.
Une histoire nouvelle ne peut avoir de valeur à mes yeux et même de justification que dans la mesure où elle se rattache à un humanisme actuel. Non pas l'humanisme au sens classique et inhabituel du mot, cet humanisme dont tous nous avons connu les séductions et qui continue à se proposer comme un modèle, quelle que soit la vétusté de certains de ses aspects et l'impossibilité de maintenir ses positions trop simples sous le choc et l'exigence de la vie présente. Je ne voudrais pas dire trop de mal, inutilement, de ce personnage si cher, omniprésent dans l'histoire de l'Occident, et qui se dissimule au cours des âges sous une infinité de masques, mais qui ne le reconnaîtrait aussitôt. Ses attitudes, ses paroles, ses décisions de variguerre. Dans un livre consacré au Moyen-Âge latin, Ernst Curtius, adressé récemment un large relevé des images littéraires dont la pensée d'Occident se sera servie à longueur de siècles. Dans cette somme, que de répétitions monotones en vérité. Un historien de la civilisation, Egon Friedel, aura pu soutenir que tout progrès de pensée en Occident n'avait été possible hier que par une recrudescence des plagiats. Mais nous ne sommes pas obligés de le croire sur parole. Et le malheur veut que l'on copie toujours le même modèle. Un modèle qui nous ramène aux leçons, aux couleurs de la Méditerranée antique. Qui pensera que ce plancton intellectuel si usé soit la vraie, la seule nourriture aujourd'hui pour la vie de l'esprit. Il n'y a aucune commune mesure, je le répète, entre cet humanisme classique que notre université défend par vocation et en raison de programmes anciens, et cet humanisme essentiel en train de s'élaborer comme une immense révolution sous les coups et les avances répétées des différentes sciences sociales. Cette révolution commencée, c'est à elle que nous voulons participer pour ne pas laisser aux sciences sociales, autres que l'histoire, le soin exclusif de construire et de découvrir l'homme d'hier et d'aujourd'hui. À vrai dire, un homme compliqué, multiple, difficile à appréhender. Les sciences sociales, nos voisines, sont toutes en pleine jeunesse et en pleine force, de l'ethnographie à la géographie humaine, de l'économie à l'anthropologie, de la démographie à la sociologie. Mais l'histoire a sa place dans ce large concert. Elle est même avec la sociologie, la seule discipline qui essaie de reconstituer l'ensemble du spectacle de l'homme, la seule entreprise à visée totalitaire. L'histoire plutôt dirigée vers l'immense pays des morts, la sociologie vers le monde des vivants. Mais la limite est fragile entre le monde des vivants et le monde des morts. Elle se déplace à chaque instant, il n'y a pas de vraie séparation entre passé et présent. L'histoire et la sociologie devraient donc toujours collaborer si elles se heurtent souvent comme deux visions différentes du monde. Et pourquoi le présent nous serait-il interdit? Il n'y a pas d'historien qui ne cherche dans ce temps présent les éléments essentiels de sa problématique et de sa réflexion, ses points nécessaires de comparaison, ses vraies raisons d'intérêt. Mais le rôle de l'histoire n'est pas sans plus la connaissance du passé, même augmentée d'une certaine connaissance de l'actuel, Le but de l'histoire se définit une connaissance de l'homme au sens le plus large, une connaissance fondée sur des moyens particuliers et efficaces. L'historien dispose à son profit des variations complexes et complices du temps. Le temps, sous sa poussée diverse, disloque, divise, transforme tout paysage humain. Ce faisant, il nous offre la possibilité de surprendre des mécanismes, d'apercevoir des architectures d'ordinaire dissimulées à notre vue. Tout paysage humain du passé vit, meurt, renaît au gré de notre observation. Il est entraîné par les mille vitesses et usures du temps. N'en va-t-il pas ainsi du présent lui-même, qui, sans que nous le discernions toujours, glisse vers certains buts sous la multiple impulsion du temps? Les calculs des économistes ou des démographes annoncent souvent à l'avance les premiers points de la route où nous nous engageons. Ils prédisent ou essaient de prédire l'avenir. L'historien, aux prises avec le passé, sait par avance, lui, quels seront les événements importants. Entendez, ceux qui auront des suites, une progéniture de conséquences. Le recul du temps nous favorise toujours et nous réserve, dans le domaine traditionnel de notre métier, des facilités singulières. Nous savons distinguer à coup sûr et au premier coup d'œil, dans les réalités complexes d'hier, l'important du secondaire, l'essentiel de l'accessoire. Toute spéculation sur l'actualité qui se veut information de qualité, essai de compréhension en profondeur, ne peut être qu'une tentative risquée de compréhension historique, une division entre mouvements accessoires et mouvements essentiels, les uns de longue durée, les autres fugitifs. Il y a aujourd'hui beaucoup de nouvelles sonnantes, comme l'on aurait dit au XVIe siècle. Leur vacarme est immense, il faut savoir ne pas entendre que leur seul bruit abusif. Et c'est là métier d'historien. Voilà bien des raisons, en dehors du goût de la vie présente, pour que, historiens, nous nous tournions hors de nos tâches habituelles et trop tranquilles, vers l'actualité déconcertante, au risque de nous y perdre, oui, bien sûr, mais aussi avec l'espoir et la conviction de nous y enrichir. Toutes les sciences sociales s'appuient sur l'actuel. Visiter leurs chantiers, saisir leurs méthodes, c'est toucher aussitôt aux pays et aux expériences multiples des hommes vivants. Je pense d'ailleurs que seule une dialectique de l'actuel et de l'inactuel peut éclairer les recherches historiques et leur donner un sens. Tout un impérialisme s'impose à l'histoire, celle-ci doit vivre, voir, penser l'actuel, saisir les méthodes et les résultats des sciences sociales, ne pas accepter l'érudition pour l'érudition, ni finalement l'histoire pour l'histoire. Toute une école historique s'y emploie. Je devrais dire tout un mouvement, car il progresse sous le signe de la liberté et non selon un programme strict d'école. Ce mouvement est né de pensées brillantes en dehors de l'histoire même, comme celle de Vidal de la Blache, le père inégalé de la géographie française, de Maurice Albax et de Marcel Mauss, héritier et continuateur de Durkheim, de François Simian, innovateur et pionnier de l'histoire des prix. Le mouvement s'est organisé grâce à la plus vivante des revues historiques françaises, Les Annales, fondées en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre. Marc Bloch, héros de la résistance, a été fusillé par les Allemands en 1944. Lucien Febvre a continué jusqu'à présent son ardent combat. Il a lutté pour une revalorisation de l'histoire, pour un élargissement de ses méthodes et de ses horizons, en faveur d'un humanisme, d'une conquête nouvelle et passionnante de l'homme. À devenir conquérante, l'histoire a dû se réformer elle-même, subir tout un choc en retour, modifier ses ambitions, ses desseins, ses structures, ses problèmes, ses armes. Mais pour vous entretenir de ces transformations comme il conviendrait, je devrais vous parler beaucoup plus longtemps qu'il ne m'est possible de le faire aujourd'hui.
L'ouverture de l'histoire au présent du monde, le décloisonnement des sciences humaines, l'invitation à dépasser l'événement pour écrire le temps long de l'histoire, les archives de notre programme le rappelleront, avant que ne s'impose sa vision de l'histoire, ce fut souvent à la marge de l'institution universitaire et contre l'orthodoxie qui dominait sa discipline qu'a dû se construire l'œuvre de Brodel. « Pour nous, il est un prince », disait Georges Duby de Fernand Brodel, pour souligner son élégance morale et la générosité de son enseignement. De cela et de l'énergie qu'il insuffla à leurs premiers pas de chercheurs témoigneront dans cette nuit ses anciens disciples Pierre Chaunu, Jacques Le Goff, Emmanuel Leroy-Ladurie et Marc Ferraud. Tout en éclairant l'œuvre et l'héritage qu'il nous a légués, Leurs interventions, celles de ses proches, de ses amis et de ses collaborateurs, nous permettront de mieux cerner la personnalité de Fernand Braudel en suivant le chemin qui, de sa Lorraine natale annexée de 1902, le mena jusqu'à l'Académie française en 1985, année de sa disparition. Auditeur peu féru d'historiographie ou lecteur très averti de la Méditerranée ou de civilisation matérielle, économie et capitalisme du XVe au XVIIIe siècle, réjouissons-nous qu'il existe des archives radiophoniques pour entendre Fernand Braudel nous dire maintenant à quelle source et à quel arrière-pays, de quelles rencontres et de quels voyages s'est nourrie l'une des grandes aventures intellectuelles du XXe siècle. Grande voix du XXe siècle, Fernand Braudel, c'est tout de suite sur France Culture.